Bonjour à tous. L'enquête sur l'accident de la circulation ayant coûté la vie à 4 personnes le 12 octobre dernier près de Niort est désormais close, indiquent nos confrères de la Nouvelle République. Et elle est accablante pour le conducteur d'une puissante Tesla. Non seulement le conducteur âgé de 65 ans circulait à très vive allure, estimé entre 138 et 155 km par heure avant de perdre le contrôle de son bolide, mais en plus les tests ont révélé qu'il était au volant avec un taux d'alcoolémie d'1,32 g. Ces 3 passagers âgés de 16, 21 et 25 ans, employés du restaurant L'Argentière à Mel, qui venaient de terminer leur service, ont aussi trouvé la mort dans cet accident.
Vous êtes les acteurs du quotidien, un des socles de notre République.
Le message de Gérard Larcher, le président du Sénat, au maire de Sévrien, réuni jeudi dans les murs de l'abbaye de Saint-Mexant-l'École à l'occasion du congrès des collectivités. Dans son discours, l'ancien maire de Rambouillet a d'entrée de jeu expliqué que les collectivités vont être mises à contribution dans le cadre des 40 milliards d'économies que doit faire la France. Il a aussi indiqué qu'il faudra trouver la solution la moins pénalisante. Il veut également redonner un second souffle à la décentralisation. Gérard Larcher.
Depuis 15 ans, nous avons recentralisé. Progressivement, on a retiré aux maires, aux présidents de conseils départementaux et aux présidents de région leur autonomie, leur levier fiscal et financier. Et au travers du levier fiscal et financier, ça a commencé avec la taxe professionnelle. Ça s'est poursuivi par un certain nombre d'autres décisions et l'aboutissement, ça a été la suppression de la taxe d'habitation. En fait, en perdant leur levier financier et fiscaux, les maires ont perdu une partie de leur pouvoir. Deuxième des choses, on a complexifié considérablement. On a rendu les maires dépendants, j'allais dire, des services de l'État ou de bureaux d'études dans lesquels ils n'avaient plus la capacité à faire entendre leur voix. Troisième des choses a quand même été la manière dont on a conduit l'évolution vers l'intercommunalité, qui est une chose indispensable, nécessaire. J'ai été président d'une interco, mais parfois les maires ont eu le sentiment qu'on leur forçait le bras. Et il y a donc eu cette recentralisation, qui d'ailleurs a commencé sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui va jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a besoin de refaire confiance au territoire.
Dans son intervention, le président du Sénat a aussi voulu rassurer les maires, et cela à moins d'un mois des élections municipales. Une nouvelle étude publiée en ce milieu de semaine montre en effet que les maires n'ont jamais autant démissionné qu'au cours du mandat actuel. Gérard Larcher revient sur ce phénomène, toujours au micro de l'E4B.
Nous avons deux études du CEVIPOF qui démontrent, notamment dans les petites communes, que beaucoup de maires sont là. Ils sont là parce qu'il y a les normes, parce qu'il n'y a plus, j'allais dire, de capacité de levier financier et fiscaux. Ils sont là aussi parce que parfois les citoyens sont très très exigeants. Et pour certains, ils sont là parce qu'ils ont le sentiment dans les intercommunalités, pour les plus petites communes, de ne plus peser beaucoup. Et puis, il faut quand même analyser que ces maires, ils ont été élus dans des conditions absolument incroyables. On était en plein Covid. On a eu des tours d'élections municipales qui se sont déroulées à des semaines d'intervalle. Ce sont parfois les anciens maires qui ont assuré avec beaucoup de courage la période de la pandémie. Et donc, les équipes municipales sont parties dans des conditions très très difficiles, ce qui peut expliquer un certain nombre de crises dans des conseils municipaux. Allez, il ne faut pas qu'ils détèlent. À moins qu'ils aient des raisons personnelles que je respecte, il faut qu'ils continuent.
Après Saint-Mexant, l'école, Gérard Larcher s'est rendu jeudi après-midi à Secondigny à l'occasion de l'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire ouverte depuis un an. L'association Bocage, comprenez Bocage Gâtine Jeunesse, vient d'être dissoute au terme de son assemblée générale avant-hier. Créée en 2016 en destination de la jeunesse, et notamment ciblant les 13-30 ans, le projet était l'un des premiers en matière de politique jeunesse sur le territoire. Nous y reviendrons plus longuement dès lundi avec l'un des coprésidents, André Hérault.
À Thouars, la chorale des cheminots retrouve la voix.
Âgée de 80 ans, la chorale historique des cheminots se remet sur la voie grâce à de nouvelles voix. Après avoir vu fondre son effectif jusqu'à une quinzaine de résistants, elle a doublé sa troupe grâce au souffle de Bénédicte Giraud, la nouvelle chef de chœur. C'est un retour au pays pour cette Thouarçaise qui a vécu sa vie professionnelle dans l'aéronautique. Pianiste amateur, elle apprécie l'esprit du groupe présidé par Jacqueline Fleury. Pour la fête de la musique cette année, Bénédicte Giraud conduira le chœur des cheminots en l'église Saint-Médard ce soir. Elle est au micro-colline de notre correspondant thouarçais, Dominique Hérault.
On est reparti de pas grand-chose et puis on a refondé un programme pour la fête de la musique exprès, avec des chansons évidemment qu'ils connaissaient auparavant mais qu'ils ne savaient plus trop bien chanter et qu'on a réapprises en fait et remises comme on en avait envie. Et puis on a fait un joli programme, je trouve, de chansons françaises. Par exemple, on va chanter Les Corons, Le Temps des Cathédrales, La Conclave de Pablo Neruda, Vivre pour le Meilleur de Johnny Hallyday et des chansons pour la paix aussi, puisqu'on a remis au goût du jour Mille Colombes de Mireille Mathieu. On aimerait avoir des chanteurs un peu plus jeunes, mais c'est assez compliqué avec le répertoire actuel. Mais on a toute l'année prochaine pour préparer de nouvelles chansons et un nouveau répertoire. Plus dans l'air du temps, on va dire, quelque part.
En clair, les choristes des cheminots ne sont pas essoufflés, loin d'être sur une voie de garage. Et ils comptent bien sur le concert de cette fête de la musique pour séduire de futurs candidats. Ils seront, je vous le rappelle, ce samedi en l'église Saint-Médard de Thouars à partir de 19h30. Restons à Thouars où le château de la Garenne à Cercé accueillera Cyriel Eberhardt et Gabriel Grobin qui proposeront un duo de violon et d'alto concert ce samedi à partir de 17h du côté de Parthenay. Le centre-ville sera animé ainsi que le skatepark pour la journée internationale du skate.
La ville de Cerizay, elle, a voulu se démarquer.
Elle fêtera la musique autour d'un marché local. C'est le cas en ce moment, place des Halles, jusqu'à 14h tout à l'heure, et d'ailleurs la circulation y est interdite. À Niort, le centre-ville va également être bien occupé à partir de 18h. Il y en aura pour tous les goûts, rock, électro, rap et latino, mais aussi des danseurs en place de la Brèche et au Petit Théâtre de Verdure. À Mauléon, plusieurs scènes seront installées à partir de 18h30 jusqu'à 1h du matin pour accueillir un programme varié mêlant artistes locaux, groupes confirmés, écoles de musique et associations culturelles. À Bressuire, le centre-ville sera animé à partir de 16h avec de nombreux concerts dans une ambiance festive avec des groupes locaux, artistes amateurs pour un large éventail de styles musicaux, rock, pop, jazz, folk, chansons françaises, blues ou encore électro. Et puis à 16h30 cet après-midi, le cinéma Le Fauteuil Rouge accueillera le groupe La Bozique de Val pour un concert relax, ouvert à tous, mais qui vise en premier lieu les personnes en situation de handicap.
On reste à Bressuire, Patrice, où la Maison des Arts ouvre ses portes ce samedi.
Elle accueille le Conservatoire de Musique, l'association Le Grenier et le Théâtre du Bocage. L'occasion pour tout un chacun de découvrir une palette d'activités de la musique au théâtre en passant par les arts plastique. Stéphanie Pinot-Coulon dirige le Conservatoire de Musique qui accueille plus de 700 élèves, dont une partie à Bressuire.
Une matinée où chacun ouvre sa porte, c'est le principe même. Et donc, côté conservatoire, on a une vingtaine d'enseignants qui seront présents. Et vraiment, c'est l'occasion pour tous les visiteurs d'essayer, manipuler les instruments, se rendre compte que oh, bah, je préfère la trompette à l'accordéon. Et puis évidemment poser plein de questions aux enseignants. Comment ça marche quand je suis inscrit au conservatoire? On dit conservatoire, mais en ce qui nous concerne, on pourrait dire une école des musiques. On a vraiment ces valeurs d'être au plus près des habitants, d'être inclusif, ouvert aux tout petits. Hein, je le rappelle, on propose des ateliers, par exemple, pour les bébés à partir de 6 mois.
Le conservatoire qui proposera également cet après-midi à partir de 16h un concert de la fanfare Pierre et Fils et des 4 orchestres à l'école qui terminent un cycle de 3 ans avant de laisser leurs instruments à d'autres enfants. Le Grenier et le Théâtre participent donc également activement à cette matinée porte ouverte en proposant la découverte des ateliers. Le Théâtre du Bocage va ainsi proposer à la rentrée prochaine des nouveautés. Audrey Lebrun y est chargée de production. Elle est également au micro-colline de Fabien Gazot.
Les portes ouvertes du 21 juin vont permettre aux personnes qui sont intéressées de pouvoir venir nous rencontrer et peut-être s'essayer à quelques exercices d'improvisation ou d'atelier théâtral pour y goûter un peu.
Alors, 2 nouveaux ateliers à la rentrée prochaine?
Oui, on va ouvrir pour la rentrée prochaine à partir de septembre un atelier d'écriture avec Philippe Forgeot et Soizic Gourville et un atelier d'improvisation qui sera mené par Marine Arsicault.
Alors là, il y a des places, évidemment, ce sont de nouveaux ateliers. C'est pas le cas pour tous les ateliers, hein. Le Théâtre du Bocage est un peu victime de son succès.
Tout à fait. En fait, chaque année, jusqu'à mi-juillet, on donne la priorité aux comédiens qui sont déjà dans les troupes pour se réengager dans leur troupe s'ils le souhaitent. Et en fonction des places qui se libèrent, on va pouvoir rappeler les personnes qui sont sur liste d'attente pour leur proposer les places. On a 4 ateliers adultes et 3 troupes enfants. Ça va de 6 à 17 ans pour les enfants.
La Maison des Arts en fait ce samedi avec en matinée jusqu'à 12h30 tout à l'heure ce que nous évoquions un peu plus tôt et puis le concert cet après-midi à partir de 16h dans la cour de la Maison des Arts située boulevard Mérisson à Bressuire.
Le 5e grand tour du bocage bressuirais ce samedi.
Ça fait bien longtemps que l'événement affiche complet. Le duo formé par Jérôme Rouget et Fred Billy poursuit son exploration du territoire avec le talent qu'on leur connaît, des talents de comédien et de conteur hors pour ces 2 tervés qui se sont déjà engagés pour une 6e édition en 2026. Béatrice Dopagne est la directrice de scène de territoire.
C'est une très jolie proposition, donc qui devient une singularité aussi de Scène de Territoire, hein, puisque on a inventé ce concept d'un tourbus qui part pendant une journée entière en voyage dans le bocage bressuéré. Et donc chaque année, on suit un fil rouge, un fil thématique. Donc l'année dernière était consacrée à l'eau, mais cette année, nous serons sur la thématique des paysages nourriciers.
Il y a évidemment une part d'impro hein, dans le travail de Jérôme et Fred, mais c'est très travaillé hein, en
oui.
amont.
Alors oui, bien sûr, il y a de l'improvisation, mais qui part d'une base très documentée, puisque là aussi, c'est aussi une création située, du coup, puisque Jérôme Rouget donc, et Fred Billy partent aussi d'un travail de repérage, de contact, d'échange avec des habitants du bocage. Enfin, c'est vraiment quand même un projet qui nous demande aussi un temps de préparation assez long, puisque ce grand tour, il se réinvente chaque année. Avec différents acteurs sur différents territoires et voilà que tout ça demande un travail d'écriture, de préparation assez long.
Le cinquième grand tour du bocage bressuré, c'est donc aujourd'hui, mais je vous rappelle, c'est déjà complet.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Ce samedi, Patrice, c'est donc la journée la plus chaude de cette semaine.
Rappelons que le département des Deux-Sèvres est toujours placé en vigilance orange canicule puisque le soleil sera bien présent malgré un voile nuageux de temps à autre. Les températures grimperont jusqu'à 38-39 degrés cet après-midi, voire même 40 sur le sud de Sèvres. Le vent sera un peu plus présent aujourd'hui avec des rafales à 40-45 km par heure, essentiellement sur la moitié sud des Deux-Sèvres. L'atmosphère sera plus respirable demain avec des températures qui repasseront en effet en été sous la barre des 30 degrés, mais légèrement sous la barre des 30
légèrement.
Degrés.
Légèrement. 29,9.
Voilà, exactement.
Merci Patrice, c'est tout pour l'info près de chez vous ce samedi et cette semaine.
On se retrouve à 7h02 lundi, première édition que j'aurai le plaisir de vous présenter. Bon week-end avec Colline, la matinale se poursuit avec David.
Salut Patrice.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.